Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview depuis le showroom intergalactique. Je suis avec the one and only Diane Tell, je suis hyper content, hyper intimidé. Diane, comment est-ce que ça va en cette belle journée, pas super ensoleillée à Paris?
Oh bah il pleut pas au moins, c'est pas mal. Bah ça va bien, je suis contente d'être à Paris puis de te rencontrer depuis le temps.
C'est vrai que ça fait un moment que je te cours après, j'ai essayé de faire jouer toutes mes relations incroyables dans le milieu de la lutherie, j'ai fait appel à Franck Cheval, etc. Mais je suis ravi que ça se fasse enfin aujourd'hui. Dis-moi, Diane, quelle était ta toute première guitare ?
C'était une guilde qui appartenait à mon père. Moi, j'étais au conservatoire en violon et une guilde de cordes de nylon, donc une petite guilde en bois sombre, rouge, très foncé.
D'accord.
Voilà, donc malheureusement, je ne l'ai plus.
Mais ton premier instrument, c'était le violon?
Ouais, premier instrument, c'était le violon, ouais.
Ok. Et est-ce que ça a joué sur ton jeu de guitare, tu penses, le violon, ou sur ton oreille, ou sur ton éducation musicale?
Oh, bah c'est sûr que j'ai fait plusieurs années de conservatoire en violon. J'étais toute petite, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc de 6 à 9, 10 ans, j'ai joué du violon. Oui, ça forme la main gauche quand même, et l'oreille aussi, et puis tous les cours de théorie, de solfège, tout ça, donc ouais.
D'accord. Et à part cette formation violon initiale, ça a été quoi les étapes principales qui ont fait de toi la musicienne, la chanteuse que tu es aujourd'hui ?
Après, je suis rentrée, après j'ai pris des cours, un peu des cours de guitare pour pouvoir rentrer au conservatoire, parce qu'évidemment, comme ce n'était pas mon instrument, il a fallu que je rattrape un petit peu. J'ai fait quelques années de conservatoire en guitare classique avec Marie Prével à Montréal. D'accord. Et après, j'ai étudié avec Sam Balderman en guitare jazz.
D'accord.
Donc ça, c'était au Cégep Saint-Laurent, qui était une école un peu professionnelle de musique. Voilà. Après, j'ai enregistré mon premier album et puis voilà, j'ai toujours fait de la musique depuis le début des temps.
D'accord. Et par rapport au chant, alors ça, c'était en parallèle de tout ça, le chant, ou le chant, tu t'es réveillé un beau matin avec cette belle voix, tu dis, tiens, je chante pas mal, t'as dû travailler quand même.
Non, je me suis pas réveillée avec une belle voix. En fait, c'est dès que j'ai eu une guitare dans les mains, naturellement, j'étais compositeur. Donc, tout de suite, je me suis mis à composer des chansons et donc à les chanter. Mais j'avais pas spécialement envie de faire chanteuse, je voulais être musicienne, mais... à l'époque, lorsque j'étais jeune au Québec, il n'y avait pas d'auteur-compositeur féminin, donc il n'y avait pas de songwriter. Et puis, il n'y avait pas de guitariste féminin dans les bandes non plus. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais... Puis ça marchait plutôt bien, dans le sens où j'ai commencé dans les bars, j'ai commencé... rien d'extraordinaire, mais je gagnais ma vie. Donc j'ai commencé comme ça. Mon premier album est arrivé assez rapidement quand même. J'ai dû signer mon premier contrat à 18 ans et voilà.
D'accord. Ça a été quoi la première chanson que tu as composée ?
Oh, je ne m'en souviens plus comme ça, mais on peut l'écouter en ligne parce que mon premier album est disponible sur toutes les plateformes. Est-ce qu'il y a sur l'album les... Non, les premières... En fait, quand j'ai fait mon premier album, j'avais déjà écrit 50 chansons.
D'accord.
J'en écrivais, j'arrêtais pas, c'était vraiment un boss d'adolescent, là. Donc j'écrivais des chansons pour tous mes mots. Et... Ma première chanson, c'était Introna, c'est un genre de truc The Wall de 15 minutes, là.
D'accord.
Mais je pourrais pas la jouer, je m'en souviens plus.
D'accord. Et en termes de songwriting, du coup, les influences, ton panthéon, ça serait qui ?
Ça a évolué avec le temps, mais à mes débuts, c'était Joni Mitchell aux trois premières places déjà.
D'accord.
C'était vraiment elle, parce que c'était tellement original ce qu'elle faisait. Ouais. Puis l'audace aussi dans la manière d'écrire, de composer, de harmonie compliquée. Enfin. Et puis après, il y avait plus des bands quoi, que j'aimais beaucoup. J'étais plus comme branchée Steely Dan.
D'accord.
Après, plus tard, j'ai aimé Bob Dylan, mais quand j'étais jeune, j'étais un peu attirée par les musiques plus complexes, Chicago, Earth, Wind and Fire, The Doobie Brothers, des bands qui faisaient un peu, évidemment, toute la musique américaine, black. J'étais plus dans le, Stevie Wonder, puis des morceaux comme ça, David Bowie aussi. Genesis, Elton John, des gens comme ça.
C'est quoi la première chanson que tu as chantée qui n'était pas de toi ?
Oh my God. Je pense que ça devait être. Manless told me that he was out of my mind. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ça, c'était Joni Mitchell, mais ce n'est pas une de ses chansons. Je me souviens même plus du titre. C'était un genre de blues, en fait. Qu'est-ce que j'ai chanté d'autre? Ben, Elton John, j'aimais bien, mais je ne l'ai jamais chanté. J'ai chanté. Oh, je me souviens, un des premiers concerts que j'ai fait, je vais avoir 18 ans. C'était au Forum de Montréal. Le Forum de
D'accord.
Montréal, c'est une grande, grande, grande salle de spectacle, la plus grande à l'époque. Et j'étais en première partie de Chris de Burgh.
OK.
Et je remplaçais en fait un groupe de rock. Et quand je suis arrivée, parce qu'on venait des coulisses, tu sais, c'est une salle de 15-20 000 places à peu près. Et puis on revenait des coulisses avec le roadie. Puis j'ai dit, mais est-ce que les gens savent que c'est pas le band, je sais plus quoi, qui va jouer? Je me souviens plus du nom du band. Il dit non, du tout, ils savent pas. Et là, 30 secondes après, j'étais au milieu du stage avec ma petite robe rose, ma guitare.
Donc plus guitare-voix comme
Ben oui,
ça,
j'avais
hein?
même pas encore fait de. Ben, l'album n'était pas sorti. Puis là, évidemment, j'étais sifflée pendant les 3-4 premières chansons. Alors, j'ai
D'accord.
joué un moment un extrait de A Star is Born, mais celui avec à l'époque, c'était Barbra Streisand. Parce que dans le film, elle est comme pas connue. Et puis, pour leur donner une idée de qu'est-ce qu'il fallait faire et arrêter de siffler.
D'accord. Ça a marché?
Oui, ça a
Ouais.
marché, oui. J'ai pas été obligée d'aller plus loin dans ma folie.
Mais ça doit être une expérience assez traumatisante, comme ça, de débarquer devant 15 000 fous furieux qui s'attendent à voir du rock, surtout en première partie, déjà que c'est compliqué, puis qui s'attendent à voir un groupe.
Bah, en fait, j'ai mérité tout à fait ce sort parce que à l'époque, c'était Donald K. Donald qui était le grand
Ah oui.
promoteur à Montréal. Et puis, je travaillais dans un bar qui s'appelait Wrong Number. Je chantais, puis il venait dans ce bar et puis il m'écoutait. Puis on se connaissait. Alors un jour, je lui ai demandé rendez-vous. Je suis allée le voir à son bureau. J'ai dit, je veux faire la première partie de Billy Joel. Il me dit, t'es-tu malade? J'ai dit, ben oui. Ben, il dit d'abord, c'est pas possible. Et puis en plus, il a déjà sa première partie, etc. Et puis, mais je dis,
Mais c'était
bon,
par bravade que tu avais dit ça ou
non,
c'était
je.
non, c'était fait, c'était
Non,
d'aller faire Billy Joel.
ouais, je
Ouais.
voulais le faire. Puis, de toute façon, c'était l'homme de la situation.
D'accord.
Et puis, il m'a rappelé 6 mois après. Il dit, Your dream's going to come through. Et il m'a appelé. Il m'a dit, ça sera pas Billy Joel, mais ça va être Chris de Burgh. En fait, Chris de Burgh avait viré le groupe qui jouait en première partie
D'accord.
puisqu'il les trouvait trop loud. Et puis, c'est lui qui a été le brave là-dedans. Il m'a foutu en première partie, inconnu au bataillon. En plus, tout un public anglophone, en fait. Et puis, je suis passée au travers. C'était un moment inoubliable pour tout le monde parce que personne n'a demandé d'être remboursé. Du coup,
D'accord.
c'était ça le but pour lui. Puis, il voulait surtout pas payer
Ouais,
pour
bien
engager
sûr,
un autre band.
d'accord. Ça coûte moins cher de faire jouer une petite débutante comme
Ouais.
ça,
Mais
ouais.
j'ai fait plein de premières parties pour lui, pour des gros bands. Ouais.
D'accord.
Parce que, par exemple, dans les festivals dehors, il me prenait parce que je chantais doucement. Et puis souvent, les bands, ils jouaient plus tard à cause de la lumière, hein, parce que le jour tombe tard l'été là-bas. Donc les bands, ils ne peuvent pas jouer quand il fait clair dehors. Donc ils font jouer des gens, mais pas trop loud, tu vois, juste au moment.
Faire un petit fond musical, c'est
Ouais,
ça,
pour entretenir le public jusqu'à 10 heures, tu vois. Donc j'ai fait beaucoup de premières parties. Mais.
Et ça, c'est une bonne école pour arriver justement à apprendre à comment accrocher les gens à se bagarrer, parce qu'il faut quasiment aller les chercher un par un, parce qu'ils t'attendent pas par définition, quoi.
Oui, mais tout est bon, je pense. Toutes les écoles sont bonnes. C'est la manière dont tu le prends qui est importante. Si tu le prends pas bien d'être sifflé, ou si c'est comme pour les gens qui vont faire la voix, The Voice, puis parce que j'étais coach à Montréal sur de la
D'accord.
voix, et donc j'ai eu l'occasion de parler avec des concurrents. Et c'est vrai que il faut bien le prendre parce que ce sont des expériences, ce ne sont pas des tournants majeurs dans ta vie, tu sais. C'est juste un moment. Et puis le prendre bien. Par exemple, moi, ce que j'avais aimé avec la première partie de Chris de Burgh, c'est que lui a été extrêmement gentil parce
D'accord.
qu'il a vu que c'était très, très dur pour moi. Et il devait chanter juste après. Il est venu me chercher. Après ma prestation, il m'a emmené dans sa loge. Il a ouvert une bouteille de. Je crois que c'était du. En tout cas, c'était du fort.
D'accord.
Je me souviens plus c'était quoi comme whisky ou cognac. Il a ouvert, il s'est fait une petite shot pour moi. Puis il m'a félicité. Puis après le spectacle, j'étais assis à côté de lui. Et. sais, si t'as des gens comme, tu rencontres des gens comme ça, des superstars, et puis tu te, voilà, tu rentres chez toi, t'es sur un nuage, quoi.
Alors, tant qu'on est dans les expériences de scène, c'était quoi toi, ta première grande scène, ou c'était pas toi la première partie, c'était l'attraction principale?
Bah, ça dépend dans quel pays, mais
La première tout court.
ouais, bah, la première grosse salle, ça a été la Place des Arts à Montréal. Donc, la salle Maisonneuve pendant 3 soirs. Donc, c'était huge avec Usep qui m'accompagnait à
Ah ouais,
l'époque.
putain.
Et puis, ça, c'était pas mal en termes de prestige, on va dire. Et quelques années après, ça a été l'Olympia, ma première salle à Paris. En fait, j'ai commencé en 83 à faire l'Olympia. Donc, la première fois, c'était un jour, et puis après plusieurs jours. Mais la première fois, c'était la plus impressionnante parce que c'était complet à mort. Et puis, c'était Claude Will qui était le producteur. Puis, Claude Will produisait que les bons artistes, et
D'accord.
Jonas, Eddy Mitchell, Véronique Sanson, Souchon, enfin, tous ceux qu'on adore. Et puis, là, il m'avait booké un lundi. Et j'avais le band de Véronique Sanson. Puis à l'époque, elle jouait avec Manu Katché, avec Camille Rustam, et puis D'Angelo, puis tout ça.
D'accord.
Et j'avais toute l'équipe technique. J'avais toute la scène de Véronique Sanson pour une soirée pour moi. Donc j'étais super bien entourée. Oui. Ça, c'est une très belle première grande scène. Après, en Belgique, ça a été le Cirque Royal, la plus belle grande scène. Voilà, dans les premières scènes. Après, plus tard, j'ai fait des choses plus grosses, mais c'est quand même des salles assez prestigieuses. D'ailleurs, au mois de juin, je vais faire à nouveau la même salle que j'ai fait à mes débuts au Canada en tant que star, là, tu sais, dans les années
D'accord.
80. Donc, la salle Maisonneuve, la même, à Place
Oui,
des
une
Arts.
très très belle salle en plus, ouais, magnifique. Ouais. Parlons un petit peu de Haïku, donc ce tout nouvel album. Est-ce qu'il y a une idée directrice derrière l'album? Pourquoi ce nom? C'est l'inspiration japonaise? C'est quoi?
Le titre est venu en dernier, en fait,
D'accord.
donc c'est pas du tout. On va faire un album qui va s'appeler
Ok.
Haïku. C'est plus, ah, on a fait un album,
Comment il
on va
s'appelle?
l'appeler Haïku. Bon, il y avait la chanson Haïku, bien sûr, mais bon, l'idée de départ, c'est de faire un album le plus proche possible de ce qui serait une musique signature de ce que je suis, mais en allant un peu plus loin, comme disent les anglophones, push the envelope, va plus loin, va chercher de l'originalité dans l'écriture, la composition, les textes, les arrangements et tout. Alors donc oui, on décide de faire un album. Alors on commence par rassembler les chansons petit à petit. Après, réalisateur, j'avais envie de travailler avec un réalisateur qui était un artiste et non pas un réalisateur ingénieur ou quelqu'un qui soit plutôt une bête de studio. Donc j'ai engagé Fred Fortin, qui est un très grand personnage au Québec, un grand artiste. Très très bon musicien. Et je lui ai confié ouais, la réalisation de l'album. Alors il m'a entouré de musiciens extraordinaires. À la guitare, Olivier Langevin, guitare électrique. Joe Grass au pedal steel. Lui-même joue de la guitare, mais il joue de la basse sur l'album. Samuel Joly à la batterie. Et François Lafontaine au clavier. Donc c'est probablement la fine fleur des musiciens de Montréal. Bon, il y en a d'autres, mais ceux-là font partie des meilleurs, des plus grands. Et ça a été extraordinaire. On a fait cet album en studio. Les maquettes, il n'y avait pas de style musical imposé. On est arrivé avec une belle carte blanche.
Et vous avez collaboré sur certaines chansons en plus avec Fred Fortin.
Alors,
Il y a des coécritures,
non,
non?
lui, en fait, il avait été engagé pour réaliser l'album, mais il m'a proposé 3 chansons qu'il a
D'accord.
écrites, lui, paroles et musique,
D'accord.
et j'ai accepté de les chanter parce qu'elles étaient super et je trouvais intéressant de travailler avec un réalisateur et de chanter aussi sa musique. Donc, ça m'a permis de signer des chansons de Fred Fortin et lui de signer des arrangements de chansons de Diane Tell. Donc, c'est ce mélange que je voulais, en fait. Donc, ça, c'était mission accomplie. Après, il y avait une chanson qui s'appelait Haïku, que j'aimais beaucoup. Et puis, je trouvais que le terme court, comme ça, c'était chouette pour appeler un album. Et surtout, j'ai pensé à Koldobika Jeroleghi pour les illustrations, qui est un très, très, très grand artiste basque, sculpteur, peintre. Et je savais que ce titre allait lui plaire. Parce que le titre d'un album, c'est aussi Tiens, quand tu appelles un illustrateur, la première chose qu'il te demande, c'est comment s'appelle l'album. Et quand tu lui dis, bah, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ça le perturbe, donc il vaut mieux lui dire l'album s'appelle Haïku. Et le gars, il répond, bah, c'est parfait, j'adore. Et puis il
D'accord.
part et il m'a fait 18 illustrations magnifiques. Donc on en a choisi une pour le cover, mais il y en a d'autres à l'intérieur de la pochette. On est en train de faire le vinyle, le double vinyle. Puis si vous l'achetez sur iTunes, il y a encore d'autres illustrations. Enfin, c'est très beau ce qu'il a fait.
Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, l'image est raccord avec le son, parce qu'il y a du très beau son à l'intérieur de cet album. C'est très agréable à écouter. Il y a tout un. Enfin, le paysage musical qu'on découvre est vraiment est riche, quoi. Il y a toujours plein, plein de découvertes. Moi, j'avais une question plus particulièrement par rapport à ta méthode de composition. Là, tu as une guitare à la main, ça tombe bien. Est-ce que tu pourrais prendre une des chansons que tu as écrites pour l'album et nous. Revisiter peut-être quelle était l'idée initiale, est-ce que c'était le titre, une mélodie, une séquence d'accords, un riff, et comment tu as fait évoluer après la chanson?
Oh ben ça dépend des chansons. Par exemple, celle-ci que j'ai chantée en introduction qui s'appelle Evolène. Ben, c'est vraiment la musique, hein. Puis j'arrivais d'Evolène, qui est un petit village en Suisse. Donc je voulais parler un peu de la folie. Puis c'est quand même une sorte de musique très, très 70s, très Joni Mitchell, très Steve Winwood, c'est un peu. Ouais, c'est ça, c'est. Alors là, ça, la musique, après j'écris les mots.
D'accord.
Après, pour une chanson comme On ne jette pas un amour comme ça, là j'avais le poème de Slobodan Despot devant les yeux depuis presque des années, parce que j'avais demandé d'écrire des. Il m'a offert des poèmes. Là, c'est les mots qui. Il
D'accord.
faut que les mots restent dans ta tête.
Donc là, tu pars vraiment du texte et
Ouais.
voilà, tu t'assois, guitare à la main.
Ouais. Là, c'est, on dirait que c'est les mots qui te dictent la mélodie, en fait. On ne jette pas un amour comme ça. On le relègue aux oubliettes et se retrouve là, tel le prisonnier de Chillon, grattant les murs jusqu'au sang, troublant la quiétude des lieux et sans cesse demandant. Mais pour quelle faute me garde-t-on? Et combien de temps encore? Après, il y a une chanson qui s'appelle Il ne m'aime pas dans l'album, qui est très douce. Et là, je voulais vraiment m'inspirer des troubadours, de l'époque des troubadours, vers le XIIIe siècle. J'ai même imaginé à un moment donné engager un orchestre de musique médiévale pour
D'accord.
accompagner, mais bon, après, on part dans 36 choses. Alors, j'ai gardé ça tout simple. On peut imaginer que cette chanson soit chantée sur une guitare lyre, tu vois, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il ne m'aime pas. Non, il ne m'aime pas. Jamais ne sera. Il ne sera à moi. Privé de son amour, il fait tout à rebours, sans espoir ni retour. Soit très, très, ouais, 12e, 13e siècle. Puis après, ben, il y a eu aussi les morceaux de Fred qu'il a fallu que j'apprenne, parce que c'était compliqué. Il écrit aussi. Là, lui, il a voulu rendre hommage. Ce que j'ai fait un petit peu dans la musique plus latine. Allez, il m'a écrit ça. Tu me sers de cette eau de vie, car tu sais à quel point je n'ai aucun regret, mais je souffre de cette mélancolie. Jamais comme avant, mais je t'en supplie, mon frère, nourris mon âme et remplis mon verre.
Et à quel moment tu sais que la chanson, enfin, en ce qui concerne tes compositions, que la chanson est terminée, que ça y est, elle est prête à être enregistrée?
Si c'est une balade, quand je pleure en la chantant,
D'accord.
ça c'est bon signe. Parce
Donc quand tu
que
pleures assez, tu dis ça y est, c'est bon, on n'en rajoute plus.
ben, c'est parce que tu mets des fois des jours, des fois même des semaines à finir une chanson, puis quand tu finis par la finir, c'est soit tu es très fatigué alors ou un peu bourré. Mais moi, ça me met les larmes aux yeux de la naissance d'une chanson, je sais pas pourquoi, mais ça me fait cet effet-là. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est quand c'est réussi. Quand on arrive au bout, ouais, on est content. Je sais pas, c'est une émotion. Ok, on touche plus, on arrête.
D'accord.
Après, j'ai des fois des. Ça remue dans ma tête et puis j'ai envie de retoucher, de
Ah oui,
recommencer,
c'est un
de.
processus un peu itératif pour retravailler,
Ouais,
ouais.
puis à chaque fois, je fais entendre, mettons, à des amis proches et puis non, c'était mieux avant, t'as tout gâché là. T'essaies d'être un peu plus littéraire, un peu plus compliqué. Mais il y a quelque chose, un moment où la chanson, elle est comme dans la vitesse, même dans le choix de la vitesse, les mots et tout ça, t'arrêtes. Sur les textes de Slobodan, où j'ai composé, là, c'est pas compliqué parce que, en fait, les textes, je prends un plaisir à jamais changer un seul mot. Donc, il faut que je m'arrange pour composer autour des poèmes qui ne sont pas faits pour être des chansons au départ. Et tu as fini quand tu arrives au bout de
D'accord.
cet exercice qui n'est pas évident. Et parce qu'il y a plus de pieds, moins de pieds, ça rime pas, enfin bon. Et sinon, moi, les miennes, ça dépend. Les chansons plus rapides, en général, les mots viennent après. Puis les ballades, c'est le contraire, en général. Mais il n'y
D'accord.
a pas de règle.
Parlons un petit peu du processus d'enregistrement. Ça s'est passé comment? C'était multicouche? Est-ce que c'était
Ah
avec tous
non.
les beaux musiciens en live?
Oui. Ouais, on ne fait pas multicouche. Non. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas répété du tout avant, parce qu'on avait une qualité de musiciens vraiment exceptionnelle, qui se connaissent en plus. Par contre, toutes les chansons étaient écrites. Il n'y avait pas de chansons pas finies.
D'accord.
On est arrivé paroles et musique pour tout le programme.
Il n'y avait que toi qui les connaissais à ce moment-là, ou les musiciens les connaissaient un peu, ou
Non.
non?
Il y avait juste le
D'accord.
réalisateur. Et moi, et puis à chaque début de séance, on s'assoyait dans le control room, les cinq, six avec l'ingénieur, sept avec moi, à vrai dire, et chacun une guitare autour du cou, comme ça on avait tous une guitare à la main à part l'ingénieur. Et puis là, on écoutait la maquette qui était toujours guitare-voix. J'ai fait
D'accord.
aucune maquette sophistiquée avec des idées d'arrangement, puis là on pourrait faire ci, là, non. Guitare-voix, le plus simple possible, sauf spoiler. Qui est une chanson où j'ai posé la voix sur une batterie, parce que je voulais pas qu'il y ait justement de direction harmonique en plus.
D'accord.
Donc, énorme page blanche là. Et on s'assoyait, et puis là, ben, on discutait, puis le temps d'écouter une fois la maquette, les gars retournaient en studio, et là, on commençait à jouer ensemble.
D'accord.
Et tout a été enregistré en live. Après, il y a eu des petits rajouts quand même. Une deuxième guitare, une percussion, un machin, mais très peu en fait, très très peu. Il n'y a même pas de chœur sur cet album, il n'y a pas de voice-over, il n'y a pas de double de ma voix. Non, c'est vraiment un album enregistré, je dirais un peu comme un album de jazz. Dans les albums de jazz, il y a rarement des chœurs qui reprennent les paroles. Billie Holiday, on ne voit pas trop avec ça. Non.
Et toi, tu jouais de la guitare et tu chantais sur certains morceaux aussi ou pas?
Très, très peu, peut-être trois ou quatre morceaux, mais le reste, non, je vais laisser jouer les garçons.
D'accord.
Oui. Ouais.
Parlons de guitare. Là, je pensais que tu allais venir avec une Franck Cheval et puis tu m'as surpris. Tu es venu avec une Alain Keguiner. C'est quoi ton lien avec les luthiers de France et d'ailleurs, d'ailleurs?
Ben, le premier lien, c'est quand même Franck Cheval,
Ouais.
parce qu'il m'en a fait maintenant. Je crois qu'il est en train de construire la cinquième.
D'accord.
J'en ai deux au Canada, j'en ai deux. Ouais, c'est ça, il est en train de faire la cinquième guitare. Mais un jour, j'ai eu un petit souci avec une guitare. J'étais à Paris, il m'a dit, va voir Alain Keguiner. Il va t'arranger ça tout de suite dans l'après-midi. Je suis allée voir Alain et j'ai craqué sur le bonhomme et j'ai commandé une guitare.
D'accord.
Et c'est celle-ci. Donc, j'y rends hommage aujourd'hui parce que la petite, elle va passer. Moi, je vais partir au Canada. Et elle va rester à Paris et elle va se faire bichonner par maître.
D'accord. Et Franck est pas jaloux?
Non.
Non.
Non, ils s'aiment beaucoup entre
Bah
eux. Ils sont
oui,
pas
je
du
sais
tout
bien.
jaloux. Non, non, non. Non, puis c'est un monde très, très solidaire en fait.
Ah
Moi,
ouais, bien
y a
sûr.
les luthiers à Montréal me parlent des luthiers de France, mais quand même, ouais, ce sont des gens très précieux, très spéciaux. Et moi, je ne joue que sur des guitares de luthier.
Et ça a commencé très tôt, justement, ce goût, parce qu'on pourrait se dire, voilà, songwriter, voilà, ça va être à la John Baez, Martin et compagnie, enfin ce genre de guitare, quoi, pas forcément la guitare de luthier.
Ouais, bah, triple 045 comme à ma label John Baez. Franck est en train de m'en faire une.
Ah bah voilà, la boucle est bouclée.
Non, mais j'ai eu quelques guitares anciennes avant, des Fender, des Guild, des guitares, oui. Le problème, c'est que le cambriolage est passé par là à plusieurs reprises, donc j'ai
D'accord.
perdu pas mal mon parc de guitares. Et puis, j'ai commencé à me faire faire des guitares, je dirais, en 2002-2003, et à peu près, ouais, bon, pas une vingtaine d'années, mais entre 15 et 20 ans, ouais. Et depuis, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup, beaucoup lancer la fabrication d'une guitare, attendre les 2 ans. Ouais. J'aime l'artisanat, donc ça m'inspire. Après, ouais, j'aime toutes les guitares. C'est sûr que quand je vais chez Boucher à Montréal, enfin pas à Montréal, mais à Saint-Berthier, à Berthier-sur-Mer, j'aime beaucoup parce qu'ils sont super. J'en ai une d'ailleurs, une Boucher, ils m'en ont offert une. Et puis il me reste une Guild du passé, j'ai une petite Martine aussi. Ouais, j'ai une Gibson des années 30 qui est en restauration chez Franck. Ouais, quand même, j'ai un petit parc, mais pas trop, quoi, ça va.
D'accord. Est-ce que tu travailles la guitare ou c'est avant tout ton stylo d'écriture?
Non, je pratique beaucoup la guitare parce que je fais beaucoup de concerts en solo, donc des concerts d'1 heure, 3 quarts. Donc il faut que je sois en forme. Et puis je fais beaucoup de jazz encore hein,
D'accord.
dans les concerts. Bon, là, j'ai une guitare folk, mais j'ai aussi des guitares avec des cordes de nylon. Donc.
Une guitare que Franck t'avait faite, c'est ça, en nylon,
Ouais.
hein.
Ça c'est Duke Ellington. Hein. Donc je chante en français, mais des standards qui ont été adaptés par Boris Vian. J'en fais quelques-uns parfois dans les concerts. En fait, la plupart des concerts, je fais en solo. Et parfois, je joue avec Robbie McIntosh,
Ah oui,
qui est
super
un
guitariste, ouais.
grand guitariste qui a joué avec
Avec Pretenders, ouais.
Pretenders. On a fait 2 albums ensemble. Et McCartney. On a fait 2 albums ensemble. Et puis, j'ai fait peut-être 20 ans de tournée avec lui.
D'accord.
Récemment, j'ai joué avec Ed Henderson, qui est un guitariste des Chilliwack au Canada. Il est venu à Paris récemment. J'aime beaucoup jouer à 2 guitares, ça c'est chouette. Là à Montréal, ben, on va faire un spectacle avec 14 musiciens pour les Francofolies, ça c'est rarissime.
D'accord.
Mais sinon, la plupart du temps, je suis seule ou avec une personne. Serge Fortin m'accompagne aussi. Lui, il est plus auteur-compositeur que musicien comme tel, mais quand on part tourner ensemble, il joue quelques-unes de ses chansons et puis il m'accompagne sur quelques-unes des miennes.
D'accord. Les prochains projets pour 2020, c'est quoi?
Beaucoup de concerts,
Ouais.
parce que l'album, bon, vient de sortir, donc là, c'est tout le cycle des concerts. Alors, il y a beaucoup de concerts au Canada surtout. Il y en a un peu en France aussi. Il y en a en Suisse. On a aussi le projet, c'est le 40e anniversaire de l'album En Flèche, où il y a Si j'étais un homme. Donc, il y a tout un collectif de musiciens québécois, des jeunes musiciens, des producers, des beatmakers, des bands, vraiment des artistes de nouvelle génération qui ont eu accès à l'album Multipiste et ils en ont fait une autre œuvre et ça va sortir l'année prochaine à partir de janvier et c'est super intéressant, j'adore. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben là on a actuellement au moment où je vous parle une exposition qui est en cours à Lausanne chez Uniquement Vôtre. Donc c'est un endroit absolument magique où on faisait du vin avant. Donc il y a des anciennes cuves en céramique. Et puis dans ces cuves sont exposées des guitares, des costumes, des objets rares de ma carrière. Et c'est là où on a lancé l'album mondialement, on va dire, il y a quelques jours. Et l'expo perdure, donc c'est intéressant. Ce qu'on voudrait créer, en fait, avec Uniquement Vôtre, c'est un lieu de spectacle où on irait voir l'artiste, mais on rentrerait aussi dans son univers. Donc, ça veut dire un genre de Hall of Fame éphémère. Donc, c'est, tu sais, comme quand tu vas au rock'n'roll ou à Graceland, tu rencontres les personnes qui ont connu, bon, ils sont décédés, mais tu rencontres des personnes qui ont connu Elvis ou tu vois des objets qui leur ont appartenu et tout ça. Donc là, c'est rencontre avec l'artiste, tu peux aller jouer au flipper avec l'artiste, écouter son concert, discuter avec, voir des objets qui lui appartiennent. J'avais même installé une bibliothèque avec certains de mes livres de
D'accord.
musique comme on a ici. On avait installé avec un partenariat aussi avec Jean Morat, qui est un fabricant de hi-fi, donc une chaîne hi-fi avec le vinyle et tout le bazar, fait à la main en Suisse. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme si je recevais les gens chez moi, puis les gens étaient confortablement assis dans des canapés, des chaises en cuir ultra design. Avec du son et de la lumière superbe de mes amis bretons qui sont venus. Donc, ce genre d'événement, j'aimerais de plus en plus le faire. Renouveler un peu l'idée de la rencontre avec l'artiste en live.
Parce que ça veut dire qu'au final, le format classique sur scène, seul avec un groupe, etc., enfin c'est pas suffisant. T'as envie d'avoir un autre lien avec le public ou d'offrir une autre expérience?
Ouais, j'ai envie de chercher quelque chose d'autre. Personnellement, en tant qu'auditeur, que tu ailles dans un bar, voir un concert dans un bar, ou que tu ailles voir un concert dans un stade de 20 000 personnes, t'es pas toujours bien installé. La bière est tiède, il y a beaucoup de monde,
Le son est pas toujours
le
top,
son est pas terrible, la lumière est agressive. C'est quoi l'histoire là, tu vois? Puis tu peux pas voir l'artiste. Parce que les loges sont trop petites dans les bars et puis tu n'as pas accès au backstage. En fait, tu vois, c'est une expérience, je trouve, qui ne s'est pas beaucoup renouvelée. C'est-à-dire que ça fait quand même depuis les années, je dirais 70-80, que la musique a envahi un peu les grands stades et tout ça. Ils ont inventé ça, ils ont inventé les festivals. Il y
Ouais,
a eu
toujours
pas,
plus gros, toujours
ouais, il y
plus
a eu
grand.
beaucoup de choses qui se sont créées, je dirais, dans les années 70-80. Et puis après, c'est qui c'est qui a la plus grosse, quoi, un peu, tu vois? C'est un peu ça, quoi. Hein? Les plus grosses loupiottes, le plus gros ampli, le plus fort son, le plus gros band. Tu sais, puis après, c'est la mode de faire avec le symphonique, avec ci, avec ça. Mais tu restes toujours mal installé, avec une bière tiède, une musique qui n'est pas vraiment sonorisée, super, super. Pas toujours, hein, mais généralement, on va dire. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour être bien installé avec une bière bien fraîche ou un bon petit vin, quelque chose à grignoter, mais rencontrer l'artiste, tu vois. Je pense qu'on est rendu là, tu vois. Avec tout ce numérique, aujourd'hui, la musique. Et heureusement, moi, je suis très pour les plateformes de streaming, j'y crois beaucoup, c'est extraordinaire pour plein de raisons. Mais il faut quand même reconnaître que ça rend l'accès tellement facile que. Tout ce qui est facile entraîne une forme de paresse quelque part, même parfois une paresse intellectuelle. Les gens sont moins curieux. Avant, tu n'avais pas le choix. Si tu voulais aller écouter de la musique, il fallait te bouger ton derrière parce que le pick-up, il était pas super. Tu vois, si tu voulais entendre the real thing, il fallait aller voir les spectacles. Tu vois. Donc, j'aimerais bien. Puis, quand tu vas chanter sur scène, normalement, on va te filer un SM58 pour chanter, quoi. Un peu, 9 fois sur 10, tu vois. Et j'ai commencé sur un SM58, tu sais. Et quand j'ai débuté, il n'y avait pas d'iPhone avec Spotify. Donc, pourquoi ça évolue à ce point, à cette vitesse? Mais surtout, à ce point, quoi. On est passé de, quand j'étais petite, écouter sur un pick-up pratiquement... avec un petit manche, des petits 45 tours dans ta chambre, à l'iPhone ou autre machine du genre, avec accès à 50 millions de titres. Pourquoi on chante encore avec un SM58? Il y a comme un truc qui, à mon avis, est-ce qu'on veut rester roots? Est-ce qu'on veut rester comme old school? I don't think so. Moi, je crois que c'est vraiment, il y a. Je crois qu'il y a vraiment un truc à chercher, à trouver là. Et nous, on essaye en tout cas de. Puis ça a beaucoup plu. Hein. Les gens étaient à la fois contents, mais très émus aussi. C'est
D'accord.
émouvant de voir. sais, imagine que tu vas voir, je sais pas, un grand groupe, puis Elton John, puis tu, oh mon Dieu, ce costume, il l'a porté à Montréal, et j'étais là dans le truc quand j'avais 18 ans. Tu sais, il y a des trucs, je pense que le monde dématérialisé attire la matière, en fait, quelque part, pour compenser.
C'est beau comme phrase, en tout cas. En guise de conclusion, ça serait quoi le mot de sagesse que tu voudrais partager aux guitaristes, aux musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses là, qui te regarderaient là?
Garde ta job de jour.
Ouais. D'accord.
Oui, c'est un bon conseil.
Ouais.
Non, mais voilà. Je ne sais pas quoi dire parce que chacun. Mais c'est parce que moi, la liberté, elle est tellement importante pour moi. Et je crois que si on rentre trop dans n'importe quel système, on perd un peu de liberté et d'indépendance. Et quand je dis garde ta job de jour, c'est une manière de rester libre et indépendant. Quitte à ce que ce soit une petite jobine qui ne te demande pas trop de ton cerveau, tu vois, pour payer le loyer. Puis après, le soir, tu rentres chez toi et là, tu donnes tout. Au début, en tout cas, un jeune qui démarre. Ça serait le premier conseil. Bon, c'est un peu. Il y a un petit fond de blague, mais je suis assez sérieuse. Je travaille avec des jeunes à Montréal qui ont gardé leur job justement pour pouvoir vraiment faire la musique qu'ils aiment. Et puis surtout pas être contraint
De faire de l'alimentaire, des trucs.
Exactement, parce que ça te bouffe la tête, quoi, de quand tu commences à faire en musique des choses alimentaires. Ça, c'est pas une bonne idée. La deuxième chose que je devrais recommander, j'ai un blog qui s'appelle Diane Cause Musique, et je parle beaucoup de l'industrie et puis du streaming et de la manière dont moi je gère mes affaires. Donc j'ai décidé de me faire cobaye un peu pour inspirer les jeunes à refaire le monde, parce que c'est ce monde est en transition, et un monde en transition, c'est un monde qui tremble, c'est un monde qui est fragile, c'est un monde qui n'est pas fait. Donc pour refaire le monde, c'est vraiment le moment, le bon moment, avant que les grandes multinationales s'accaparent de tous ces outils. C'est déjà un peu commencé d'ailleurs. Et le conseil que je voudrais donner, c'est informez-vous. Parce que les artistes d'aujourd'hui ont l'opportunité, sinon de garder tous leurs revenus. Par exemple, on me dit souvent, oui, mais toi, tu as ton label,
Oui, catalogue, etc.
t'as un catalogue, tu as ta maison d'édition, c'est facile pour toi, tu as un nom aussi, tu es connu. C'est vrai. Donc au début, il faut partager, c'est vrai. Et même maintenant, quand tu as une bonne équipe, c'est mieux. Mais il faut garder le contrôle sur ses revenus. C'est-à-dire, il vaut mieux que les gens travaillent pour toi que ce soit le contraire. Donc, que ça veut dire, oui, je vais m'associer avec toi, mais tu vas travailler pour moi, même si c'est pour lui donner 50%. Mais quand tu gardes le contrôle sur tes revenus, bah, tu peux changer de business model, on va dire, au fur et à mesure où ta carrière évolue. Moi, je suis de. Les gens disent, oui, mais bon, toi, oui, Diane Tell, là, 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 les générations derrière. Mais je suis devenue productrice en 1982,
D'accord.
83. Donc,
Justement, en faisant ce choix, en prenant ta destinée en main de manière
ouais, mais
plus...
ça ne m'a pas empêchée d'être dans les majors pendant des années, mais j'étais productrice, donc propriétaire. J'étais en licence dans les majors la plupart du temps.
D'accord.
Donc, j'ai commencé à 25 ans déjà à vivre ça. Et ce n'est pas parce que j'avais de l'argent, j'en avais pas. Puis mes premiers albums ont marché, mais comme j'étais pas.
C'est pas toi qui as vu les sous.
Non, c'est pas que c'est pas moi qui avais les sous, c'est que j'avais signé un très 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 mauvais contrat à 18 ans. Donc pour en finir, j'ai été obligée de sacrifier les 3-4 premières années de ma vie et puis racheter ces contrats. C'est ce que j'ai fait et je le regrette pas aujourd'hui du tout. Mais j'aurais préféré évidemment pas faire de bêtises dès le départ parce que tout le monde n'a pas les moyens de racheter avec ses tubes. Donc garder le contrôle de ses droits, garder le contrôle de ses revenus. Et les partager, mais avec comment dire, le partage n'exclut pas le contrôle. Voilà.
D'accord.
Parce que le contraire fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent à propos du streaming, alors que le streaming est une chose qui est excellente et qui va permettre à beaucoup de gens de vivre mieux de leur musique avec le temps,
Mais pourtant,
simplement.
actuellement, ça rapporte pas grand-chose, quoi. Le streaming, c'est la misère totale, non?
Absolument pas.
Non?
Non, ça rapporte l'argent.
D'accord.
Oui, c'est le contraire. Parce que je suis propriétaire de mes masters.
D'accord.
Donc, il n'y a pas d'intermédiaire qui en bouffe les trois quarts. Et j'ai ma chaîne YouTube. On travaille beaucoup en ligne. On a une très, très bonne maison de distribution qui s'appelle Idol.
D'accord.
Et comme les chiffres sont plus ou moins multipliés par deux chaque année, Donc ça veut dire que d'ici, moi je dirais 6 ou 6 ans, allez 5-6 ans, même si je suis d'une génération où j'ai pas un public qui est jeune, j'aimerais bien parce que ma musique n'est pas vieillotte, ma musique est contemporaine, mais bon, il faudrait que, disons que la curiosité des gens, toutes générations confondues, dépasse un peu le si j'étais un homme. Pour aller voir ce qu'on fait. Mais l'ennui, c'est que le streaming, en fait, c'est une forme de consommation de musique qui n'est pas très prisée par les gens qui aiment la chanson. Donc, on ne peut que progresser. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir et je pense que oui, ça va le faire. Ça va le faire. Il y aura avec ça les concerts, les droits d'auteur, bon, tout ça mélangé. Moi, je gagne mieux ma vie maintenant qu'il y a 20 ans.
D'accord, parfait. Bah écoute, Diane, j'étais ravi de t'accueillir ici au showroom, ça m'a fait grand plaisir. Et puis donc j'espère que la prochaine fois, bah, tu viendras avec une Franck Cheval, comme ça
Oui.
je serai en bon terme avec les deux et tout va bien se passer. Merci beaucoup, Diane.
Merci à toi.
Au revoir.
Ciao.